d'Afrique.
Le livre d'Afrique est court.
Le livre d'Afrique.
Le livre d'Afrique.
Le livre d'Afrique.
Et c'est avec le concept So Art Book, comme tous les lundis à la même heure. Nous allons ouvrir un ouvrage dans un instant. Et pour ce faire, d'ailleurs, on va accueillir Sarah Assidi, qui nous rejoint. Elle est diplômée d'une maîtrise en littérature francophone. Elle est doctorante en littérature francophone et enseignante, puisqu'elle a enseigné tour à tour en France, au Canada et au Togo, où elle réside actuellement. Elle nous rejoint pour So Art Book, afin de nous ouvrir aujourd'hui le recueil Jazz et Vin de Palme d'Emmanuel Dongala. Bonjour et merci de nous rejoindre, Sarah Assidi. Bienvenue sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci, bonjour Aïssa. Donc c'est un plaisir d'être à l'antenne d'Africa Radio pour présenter à nouveau un recueil, comme la semaine dernière, mais cette fois rédigé par un seul homme, Emmanuel Dongala.
Allons-y.
Donc le recueil Jazz et Vin de Palme, c'est un recueil qui a été publié une première fois en 1982 et qui a été réédité plusieurs fois depuis. Donc c'est un classique de la littérature africaine. Donc quelques mots sur Emmanuel Dongala avant de présenter le recueil de nouvelles. Il est né en République centrafricaine en 1941, mais il a grandi en République du Congo. Il est l'auteur de 6 romans, d'un recueil de nouvelles et de 3 pièces de théâtre. Ce qui est intéressant chez cet auteur, c'est qu'il est scientifique de formation et que c'est un des rares écrivains africains à avoir quitté le Congo pour les États-Unis, passant directement de Brazzaville à New York dans les années 60, à l'époque où le pays est en pleine ébullition du mouvement des droits civiques. Donc l'écrivain va vivre les revendications des Afro-Américains, notamment le combat pour le droit de vote, la lutte contre la ségrégation dans les lieux publics et le droit au mariage mixte. Donc pendant ce temps, en 1963, le Congo va entrer dans la mouvance de l'international communiste. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce qu'on va voir dans le recueil de nouvelles que je vais vous présenter, qu'on voit les traces de ces différents lieux où l'auteur a vécu et qu'on voit vraiment qu'il a été imprégné par les différentes problématiques sociales et politiques qu'il essaie de mettre en scène. Donc la première nouvelle, l'étonnante et dialectique déchéance du camarade Kali Chikavi, va mettre en scène deux mondes en apparence antagonistes. Donc celui des Nganga, donc en Lingala les féticheurs, les sorciers,
ouais.
et celui des militants politiques cartésiens et matérialistes. Donc en fait, ça parle d'un personnage, Kali, qui après avoir fait un séjour en Russie, retourne pour œuvrer pour le parti unique qui succède à la Révolution. Donc on suppose qu'il s'agit de la Révolution des Trois Glorieuses. Et donc son engagement politique va s'inscrire clairement sous une idéologie marxiste-léniniste qui va le conduire à mener la vie dure contre toutes les croyances occultes héritées de ses ancêtres. Donc il rejette violemment le mysticisme et ce rejet va conduire ironiquement à sa perte puisque les premiers mots pour son ami qu'il va retrouver avec un verre de vin vont être « Mon cher, cousez-vous, tu as devant toi quelqu'un qui va bientôt mourir. J'ai été ensorcelé par mon oncle paternel. » Et donc toute la nouvelle va retracer les différentes péripéties qui seraient à la source de cet ensorcellement. Donc au début, il ne parvient pas à faire d'enfant, puisque son oncle aurait jeté un sort. Bien qu'ils soient tous les deux en bonne santé, sa femme et lui, ils ne parviennent pas à avoir d'enfant. Il va également voir une femme sous les traits d'un gros singe. Il va voir son oncle incarné dans différentes formes animales. À la fin de la nouvelle, dépité, il décide de faire appel à un sorcier pour tenter de contrer ce sort qui lui a été... qu'on a jeté sur lui. Et puis ce sorcier va profiter de la crédulité de ce personnage et va faire en sorte qu'il se retrouve nu dans un cimetière. Et donc il va passer pour un fou. Donc ce qui est intéressant en fait dans cette nouvelle chez Dongala, et c'est assez représentatif des premières nouvelles qui se situent au Congo, c'est que l'auteur va ouvrir le champ des possibles en révélant aussi bien les failles du système politique à l'œuvre au Congo, avec les coups de fusil mystiques et métaphysiques, des sorciers congolais. Il va dévoiler deux facettes de la société congolaise qui vont être liées par leur opportunisme. D'un côté, on a tous les militants politiques, la science politique qui va conduire, je cite, à un terrorisme intellectuel sur le pays, falsifiant l'histoire, étouffant tout débat d'idées sous un centralisme qui n'avait rien de démocratique. Et de l'autre côté, on a toute la cosmogonie africaine qui va lier les ancêtres fondateurs aux vieux. Donc on a deux systèmes de valeurs qui vont être moqués et déconstruits, de telle sorte que nous, lecteurs, on ne sait pas pour qui prendre parti puisque les deux sont dérisoires. Mais il ne présente pas juste ces problématiques mystiques et politiques. On a une nouvelle qui est très intéressante, qui est une nouvelle féministe intitulée « Une journée dans la vie d'Augustine Maya ». Donc dans cette nouvelle, il va nous dresser le portrait d'un personnage féminin fort et digne, Elle est commerçante et elle tente de survivre malgré un contexte politique donc injuste. Et depuis la Révolution, elle est contrainte de laisser sa pièce d'identité à la frontière du fleuve pour se rendre à Kinshasa récupérer ses marchandises. Mais un jour, l'administration va perdre sa pièce d'identité et elle va se retrouver à perdre des journées de travail parce que sans pièce d'identité, elle ne peut pas traverser la frontière. Le narrateur va ironiser, ici encore, sur la bêtise du système en questionnant. Peut-être que perdre des cartes d'identité de pauvres commerçantes faisait partie de la défense de la Révolution. Il prend clairement parti pour son sort, toujours sur le mode interrogatif. La société phallocrate n'a-t-elle pas toujours été ainsi? Les hommes prenaient des femmes et les abandonnaient à leur gré. Un mari pouvait avoir plusieurs maîtresses, la société n'y trouvait rien à redire. Tandis qu'une femme était clouée au pilori, chassée du logis matrimonial, n'eût-elle qu'un amant accidentel. Dans une autre nouvelle qui se situe encore au Congo, dans quelques instants on va voler jusqu'aux États-Unis. Dans une autre nouvelle donc au Congo, intitulée « Le procès du père Likibi », on a le portrait d'un village où la sécheresse sévit. Alors on cherche un bouc émissaire, on cherche celui qui a causé cette sécheresse. Donc ça tombe sur le père Likibi qui est le chef du village. Va s'organiser alors un procès révolutionnaire pour punir sévèrement cet homme qui est accusé non seulement d'avoir causé la pluie, mais de s'être transformé en serpent, en vent et en fruit pourri. Donc le procès qui va s'organiser est totalement grotesque. Tous les arguments en faveur du chef d'accusation sont totalement caricaturaux et fallacieux. Ils vont être énoncés ici encore dans un mode ironique où l'idéologie révolutionnaire va viser à bannir les croyances superstitieuses des villageois. Donc un peu comme dans la première nouvelle, Mongala va associer science du parti, ce socialisme scientifique qui pratiquait un raisonnement dialectique, et science occulte, tout en se jouant des référents politiques. La nouvelle est parsemée d'expressions qui vont totalement désacraliser le politique, notamment à travers les qualificatifs utilisés pour désigner les fesses des personnages, par exemple. Donc on a des fesses prolétariennes, des fesses révolutionnaires. À un moment, une mouche est totalement qualifiée d'insecte antisocialiste. Toutes ces premières nouvelles s'inscrivent vraiment au Congo et on voit les désillusions et le désenchantement qui ont succédé à la révolution et donc à l'instauration du parti unique. À un moment, on change totalement d'univers puisque, comme je le disais en introduction, Emmanuel Dongala a vécu beaucoup aux États-Unis. Et donc, à partir de la nouvelle Jazz et Vin de Palme, alors c'est une nouvelle qui a été considérée comme la première nouvelle de science-fiction africaine, on a l'invasion d'extraterrestres qui arrivent en Afrique centrale et qui vont se délecter de boissons africaines. Et donc, ces extraterrestres qui arrivent en Afrique centrale vont tomber sous le charme de John Coltrane, qui est le célèbre saxophoniste de jazz, et Sun Ra, l'artiste de free jazz cosmique. Donc, un peu comme l'auteur, leur musique va avoir un pouvoir d'envoûtement et va parvenir à libérer les terriens. Dans une autre nouvelle, le métro fantôme, là, on traverse les le narrateur nous donne à découvrir les senteurs et les atmosphères du métro. On finit en apothéose suprême, imprégné de l'univers afro-américain et dédié à l'artiste cher à Emmanuel Dongala, John Coltrane, qui va être surnommé le Malcolm X du jazz. Le narrateur rencontre l'artiste dont la trajectoire enferme des résonances avec celle de son propre peuple, l'histoire d'une quête de liberté et de respect de la dignité humaine. La nouvelle s'achève avec un passage qui nous rappelle combien les choses n'ont pas évolué, puisque le narrateur, ému de la mort de John Coltrane, sort de chez lui et nous dit « Je poussai la porte, je sortis dans la rue, je fus ébloui un instant, non pas par le soleil, mais par le pare-brise d'une voiture de police qui précédait une ambulance. En face, un garçon noir de 13 ans venait d'être tué par un agent de police blanc qui était en train d'invoquer devant la foule de noirs hostiles la légitime défense. » Et donc, on voit combien les questions qui sont encore d'actualité aujourd'hui, à savoir le droit des Afro-Américains et les bavures policières, sont tristement d'actualité.
Absolument, Sarah Assidi, on sent la véritable passionnée hein, chez vous.
C'était dur de présenter brièvement parce que c'est un auteur sur lequel je travaille dans le cadre de ma thèse, donc c'est difficile de synthétiser, d'aller à l'essentiel pour vous donner envie de le découvrir.
Absolument, et bravo en tout cas de nous avoir ouvert ce recueil Jazz et Vin de Palme qui donne envie. En tout cas, je rappelle que vous êtes diplômée d'une maîtrise en littérature francophone, doctorante en littérature francophone, vous êtes aussi enseignante, vous avez enseigné tout en France, au Canada et au Togo. où vous êtes installée en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir ouvert cet ouvrage pour So Art et So Art Book. N'hésitez surtout pas pour en savoir un petit peu plus sur les différents programmes et les déclinaisons de So Art. Ça se passe sur les réseaux. Merci Sarah Assidi. On vous
merci,
souhaite une belle journée du côté du Togo. On se retrouve dans un instant avec l'info en direct sur la radio africaine.
Le livre d'Afrique.
Le livre d'Afrique est court.
Le livre d'Afrique.
Le livre d'Afrique.
Le livre d'Afrique.